Chapitre 4. Bakhoun. Or, à cette époque, vivait un homme extraordinaire nommé Bakhoun, issu de la tribu de Ptu et frère du premier grand prêtre des Ahelal. De bonne heure, il avait quitté la vie nomade, fait choix d'une belle solitude entre quatre collines, dans un mince et vivant vallon où roulait la clarté chanteuse d'une source. Des quartiers de roc lui faisaient la tente fixe, la demeure cyclopéenne. La patience et l'aide ménagée des bœufs ou des chevaux lui avait créé l'opulence des récoltes régulières. Ses quatre femmes, ses 30 enfants, y vivaient de la vie d'Éden. Bakhoun professait des idées singulières qu'il eussent fait lapider sans le respect des Ahelal pour son frère aîné, le grand prêtre suprême. Premièrement, il professait que la vie sédentaire était préférable à la vie nomade, ménageant les forces de l'homme au profit de l'esprit. Secondement, il pensait que le soleil, la lune et les étoiles n'étaient pas des dieux, mais des masses lumineuses. Troisièmement, il disait que l'homme ne doit réellement croire qu'aux choses prouvées par la mesure. Les Ahelal lui attribuaient des pouvoirs magiques, et les plus téméraires, parfois, se risquaient à le consulter. Il ne s'en repentait jamais. On avouait qu'il avait souvent aidé des tribus malheureuses en leur distribuant des vivres. Or, à l'heure noire, quand apparut la mélancolique alternative d'abandonner des contrées fécondes ou d'être détruites par les divinités inexorables, les tribus songèrent à Bakhoun, et les prêtres eux-mêmes, après des luttes d'orgueil, lui députèrent trois des plus considérables de leur ordre. Bakhoun prêta la plus anxieuse attention aux récits, les faisant répéter, posant des questions nombreuses et précises. Il demanda 2 jours de méditation. Ce temps écoulé, il annonça simplement qu'il allait se consacrer à l'étude des formes. Les tribus furent un peu désappointées, car on avait espéré que Bakhoun pourrait délivrer le pays par sorcellerie. Néanmoins, les chefs se montrèrent heureux de sa décision et en espérèrent de grandes choses. Alors, Bakhoun s'établit aux abords de la forêt de Xur, se retirant à l'heure du repos, et, tout le jour, il observait, monté sur le plus rapide étalon de Chaldée. Bientôt, convaincu de la supériorité du splendide animal sur les plus agiles des formes, il put commencer son étude hardie et minutieuse des ennemis de l'homme. Cette étude à laquelle nous devons le grand livre Anté cunéiforme de 60 tables, le plus beau livre lapidaire que les âges nomades aient légué aux races modernes. C'est dans ce livre, admirable de patiente observation et de sobriété, que se trouve constaté un système de vie absolument dissemblable de notre règne animal et végétal, système que Bakhoun avoue humblement n'avoir pu analyser que dans son apparence la plus grossière, la plus extérieure. Il est impossible à l'homme de ne pas frissonner en lisant cette monographie des êtres que Bakhoun nomme les Xipeus. Ces détails désintéressés, jamais poussés aux merveilleux systématiques que le vieux scribe révèle sur leurs actes, leur mode de progression, de combat, de génération, et qui démontre que la race humaine a été au bord du néant, que la terre a failli être le patrimoine d'un règne dont nous avons perdu jusqu'à la conception. Il faut lire la merveilleuse traduction de M. Dessau, ses découvertes inattendues sur la linguistique pré-assyrienne, découvertes plus admirées malheureusement à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne, que dans sa propre patrie. L'illustre savant a daigné mettre à notre disposition les passages saillants du précieux ouvrage, et ces passages que nous offrons ci-après au public peut-être inspireront l'envie de parcourir les superbes traductions du maître. Note de bas de page. Les précurseurs de Ninive, par B. Dessau, édition chez Kalman Levy. Dans l'intérêt du lecteur, j'ai converti l'extrait du livre de Bakhoun, ci-après, en langage scientifique moderne.